voix nue. Cette semaine, Aurélie Luneau rencontre Jean-Claude Amezen. Ce soir, la médecine absolument, la recherche passionnément.
Bonsoir Jean-Claude Amezen.
Bonsoir.
Nous sommes de retour avec plaisir chez vous pour poursuivre cette immersion dans votre parcours de vie. Alors ce parcours de vie, c'est celui d'un médecin immunologiste, chercheur, humaniste, épris d'éthique et de transmission des savoirs. Et vous nous avez déjà livré dans les épisodes précédents votre part d'enfance, celle qui continue de vous guider, les valeurs en héritage, le vivant, la survivance, et notamment le poids de la Seconde Guerre mondiale dans ce vécu familial. Il y a aussi la place importante de l'art et de la culture, de la pluridisciplinarité dans l'enseignement, beaucoup de choses. Et ce soir, c'est dans le monde de la médecine et de la recherche que vous allez nous entraîner. Alors, du médecin au chercheur, est-ce que le passage a été une évidence ?
Alors, il y a d'abord eu un passage dans la médecine, entre l'idée que je me faisais de la médecine et la découverte de ce que c'était concrètement, et une découverte qui était extraordinairement intense, qui était bouleversante. La découverte du contact humain, la découverte de l'écoute, du dialogue, et puis en même temps de l'urgence, et en même temps de la nuit, des gardes, du temps qui s'arrête, des vies qu'on tente de sauver. Et puis il y avait le vieux rêve de la recherche, l'ancien rêve de la recherche. Et donc, pour savoir ce que c'était, eh bien j'ai pris un stage d'internat en recherche, en immunologie. Et là encore, la découverte a été enthousiasmante, extraordinaire, très différente. Le temps n'est pas le même. Il se compte en semaines, en mois. En médecine, il se compte en minutes, en heures, en jours. Et j'ai plongé dans ces deux mondes en pensant que je les conjuguerais et que ça serait mon activité pendant toute ma vie. Et puis, dans le cours de mes recherches, j'avais été fasciné par un certain nombre de travaux qui avaient été publiés par des chercheurs du département d'immunologie de l'université de Yale. Et donc, j'ai décidé d'y aller. J'y suis resté 2 ans, comme postdoctorant, puis comme chercheur associé. Et là, en fait, je me suis aperçu que conjuguer les deux, en tout cas pour ceux qui étaient des immunologistes cliniques, comme moi, j'étais devenu pneumologue et immunologiste clinique, et bien en fait ça consistait à faire une matinée de clinique et tout le reste du temps de la recherche. Et je me suis dit, on peut pas faire les choses à moitié, et j'ai basculé dans la biologie et dans la recherche.
Alors pour vous, Jean-Claude Amezen, donc du médecin au chercheur, le passage fut une évidence. Il y a un événement, je crois, qui précipite vos découvertes, ce que vous allez aussi mettre en lumière et qui va être éclairant pour ce monde de la recherche.
Oui, alors moi je crois, ça traduit pour moi en tout cas quelque chose qui me paraît important, c'est que les intuitions, les idées nouvelles, les hypothèses et théories, elles naissent à la fois au croisement des préoccupations, au croisement des recherches, au croisement des disciplines ou des lectures. Et elles naissent aussi d'événements, de bouleversements affectifs qui n'ont rien à voir avec le travail de la recherche lui-même. Et ce qui m'est arrivé est de cet ordre. Il y avait un croisement. Quand j'étais à Yale, on était au milieu des années sida. Je ne travaille pas sur le sida, mais c'était la tragédie était en train de se développer. Et évidemment, c'est une maladie qui touche le système immunitaire, qui était au cœur de l'immunologie, donc je lisais énormément. Puis quand je suis revenu en France, après 2 ans, j'ai commencé à travailler sur le sida à Lille, mais d'une manière qui touchait pas exactement ce qui me préoccupait dans mes lectures. Et ce qui me préoccupait dans mes lectures, c'était quelque chose qui m'apparaissait mystérieux. C'était comment un virus entraînait l'effondrement du système immunitaire et du cerveau, en entraînant la disparition non seulement des cellules que le virus infectait, mais aussi des cellules qu'il n'infectait pas. Et puis un jour, survient quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. On était au laboratoire, Fabienne, ma femme et moi, et j'apprends par un coup de téléphone que mon père, qui était en vacances et à la montagne, est tombé, et que les médecins ont découvert un cancer du foie terminal. Et donc je suis complètement bouleversé, saisi, désarçonné. Ce n'est pas que je ne connais pas la mort et que je ne l'ai pas rencontré, mais c'est mon père. Donc c'est une autre façon d'être confronté. Et Fabienne, à ce moment, sort du placard de notre bureau un article en particulier qu'elle me tend. Et alors, c'était très étrange. Moi, j'étais abattu sur mon bureau. Et elle me dit, il y a la solution dans cet article. Et je regarde l'article expérimental chez la souris qui propose une façon théorique de guérir le cancer en induisant la mort des cellules cancéreuses. Et une mort particulière, artificiellement, par l'intermédiaire d'un anticorps. Et je lui dis, oui, c'est très beau, c'est de la recherche, mais c'est pas ça, c'est pas un traitement. Et puis, elle me donne des articles qu'elle avait classés, que j'avais lus, sur un sujet qui m'intéressait, sur lequel, de manière assez étrange, j'avais écrit « AIDS-related », ce qui veut dire, j'annotais mes articles, ce qui veut dire que j'avais écrit « en rapport avec le sida ». Et c'était des articles sur la mort cellulaire au cours du développement des embryons. C'est ce qu'on appelle la mort cellulaire programmée, l'apoptose, le suicide cellulaire. Et c'était des articles qui décrivaient la façon dont, au cours du développement des embryons, dans toutes les espèces animales, il y a un grand nombre de cellules qui meurent à des endroits donnés, à des moments donnés, et ce phénomène participe à la construction des embryons. Un exemple, mais il y en a d'innombrables, c'est l'exemple de la formation des doigts. Les mains naissent comme des moufles. Et puis, à un moment donné, les tissus qui sont entre les doigts meurent, et donc les doigts sont individualisés. Et il y a eu des variations au cours de l'évolution du vivant, parce que chez les mammifères terrestres, c'est ce qui se passe au cours du développement de l'embryon, mais chez les mammifères aquatiques, eh bien, ces phénomènes sont atténués et ça donne naissance à des pattes palmées. Donc c'est un phénomène fondamental qu'on peut appeler un phénomène de sculpture de la forme, dans lequel la mort, la disparition physiologique, normale, naturelle des cellules, entraîne la sculpture de la forme, à la fois extérieure, mais aussi intérieure.
Et selon le milieu de vie.
C'est à la fois en fonction de l'environnement, mais aussi de manière stéréotypée, en fonction de l'environnement interne, que la construction de l'embryon crée. Puisqu'un embryon qui se construit, il se construit à partir d'une seule cellule fécondée, qui donne naissance à des cellules quasiment identiques, qui vont peu à peu, à cause de leurs interactions aléatoires, donner naissance à plus de 100 familles différentes de cellules. Et donc c'est un environnement hétérogène qui se construit. Et les relations entre les cellules à l'intérieur de cet environnement hétérogène vont déterminer si ces cellules s'autodétruisent ou si ces cellules continuent à vivre et survivre. Et donc ces phénomènes, je me suis plongé dedans. C'était pas l'aspect scientifique que je recherchais, c'était une espèce de sérénité. Je venais d'apprendre que mon père allait mourir, et puis j'avais ces articles qui me disaient qu'il y avait une dimension dans la mort qui était une dimension lumineuse, sereine, qui permettait à la vie de se construire, et qui était l'opposé de la mort qui détruit, de la mort qui emporte. Et puis un jour, au bout de quelques jours, d'un seul coup, c'est des moments étranges, comme si un rideau se déchirait, comme si d'un seul coup les choses n'étaient plus les mêmes. Il y a une impression un peu lumineuse. D'un seul coup, quelque chose d'extraordinairement simple a surgi en moi, comme si c'était évident, qui était que si ces phénomènes d'autodestruction cellulaire jouaient un rôle important dans la construction des embryons, eh bien, leur dérèglement ou leur ressurgissement, parce qu'à l'époque on pensait qu'elles étaient confinées au moment du développement embryonnaire, en tout cas dans le système immunitaire et dans le système nerveux, leur ressurgissement et leur dérèglement à l'âge adulte pourraient être la cause de la maladie. Et que ce qui nous construisait pourrait être aussi ce qui nous détruit. Et donc c'était une idée extrêmement simple. Et ce dont je me souviens, c'est un peu, vous savez, comme cette nouvelle de la lettre volée d'Edgar Allan Poe, où on cherche une lettre. On la cherche partout. Et en fait, la lettre, elle est en évidence parmi d'autres lettres. Et c'est pour ça que personne ne la trouve, parce qu'on cherche une lettre cachée. Et donc, il y a cette impression que c'est évident. Et donc, que c'est vrai. Parce que s'il y a cette simplicité extraordinaire, c'est que ça ne peut qu'être vrai. Mais comme vous êtes en même temps chercheur, l'idée qui vient tout de suite aussi, c'est que c'est tellement simple que ça doit être faux. C'est-à-dire que ça peut pas être aussi simple. Au fond, la lettre, elle peut pas être là au milieu des autres. Elle doit être ailleurs. Et donc, il y a cette double impression. Une impression extraordinaire, qui est une espèce d'impression de délivrance, d'émerveillement. C'est extraordinaire. Comment est-ce que j'ai pu ne pas voir quelque chose qui qui est évident. C'est cette sérénité extraordinaire sur laquelle vient se greffer très rapidement une espèce de d'angoisse et d'inquiétude. C'est d'autant plus angoissant que ça serait tellement beau si c'était vrai. Parce qu'en plus d'être vrai, c'est beau. Et donc après, la question c'est qu'en faire ? J'ai quitté le laboratoire. Je me suis enfermé avec Fabienne dans notre appartement. Puis je lui ai raconté dès que je suis arrivé. Et on a commencé à parler. Ce qu'on fait souvent d'ailleurs, ce qu'on a toujours fait. Argumenter, discuter, évoquer des idées, en fait, on construit ensemble. Et pendant quelques jours, la question était, si c'est vrai, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça prédit, dit-on en science, c'est pas la prédiction de l'avenir, mais qu'est-ce que ça permet de voir qui est caché et qu'on ne peut pas voir si on ne fait pas appel à cette grille de lecture, à cette théorie, à cette hypothèse? Donc, qu'est-ce que ça dit d'inconnu. Qu'est-ce que ça permet de révéler si c'est vrai? Et puis, comment on montre si c'est vrai ou pas? Comment on falsifie? Comment on peut imaginer des expériences qui permettraient de voir, de montrer que c'est faux, si c'est faux? Vous savez que quelque chose tient en science tant qu'on n'a pas pu démontrer que c'est faux. C'est-à-dire quand on s'est mis en situation de pouvoir démontrer que c'est faux, mais que ça a tenu. C'est pour ça que toutes les théories, toutes les hypothèses sont provisoires, même si ce provisoire se compte parfois en siècles, parce que en fait, c'est tant qu'on n'a pas trouvé mieux, et tant qu'on n'a pas trouvé mieux, ça veut dire tant qu'on n'a pas pu montrer que ça n'est pas la meilleure explication de ce qu'on fait. Donc, ça a été ça, et tout ce dont je me souviens, c'est d'un sentiment de fièvre. Essayer d'arriver à un point où l'incertitude, c'est vrai ou c'est pas vrai, peut se résoudre.
Donc s'extraire du labo, du labo, Jean-Claude Amezen, parce qu'il y a quand même ce monde de la recherche qui demande la validation, et que là, vous aviez besoin de vous mettre un petit peu hors de ces pressions-là, ou pas du tout?
J'avais besoin d'être ailleurs. J'avais besoin de ne pas être pris dans la vie quotidienne, même si c'est la vie quotidienne d'un laboratoire, j'avais besoin de m'extraire. Alors, je ne suis pas parti très loin, mais j'étais ailleurs. Et puis, ce que j'ai décidé de faire, parce que j'avais pas les moyens même concrets, ni les chercheurs formés dans ce domaine, pour tester moi-même, ou pour que mon laboratoire teste la validité de ces hypothèses. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'écrire un article théorique, dans lequel je présentais cette hypothèse en disant que des maladies comme le sida ou les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer ou d'autres, dans lesquelles la maladie est causée par la disparition d'un très grand nombre de cellules, pourrait être dû à la réémergence d'un mécanisme physiologique normal d'autodestruction et à son dérèglement, et pas, comme on le pensait à l'époque, à quelque chose qui détruit les cellules, que ça soit une toxine, un virus, des phénomènes de vieillissement. Que ça pouvait être une mort qui venait de l'intérieur, qui était normale et physiologique, sauf que les circonstances dans lesquelles elle se passait causait la maladie et était source de souffrance. Et puis, je proposais dans cet article un ensemble d'expériences en expliquant pourquoi elles permettraient de voir si ou non cette hypothèse tenait. Et c'est comme ça que je suis rentré. C'était l'année 1990. C'est comme ça que je suis rentré dans le domaine des recherches sur les morts cellulaires, par un article théorique et par le croisement, et je pense que c'est important d'une manière assez générale, par le croisement entre un état affectif, un événement intime, un bouleversement, et puis des lectures, une préoccupation. Et donc je crois que même si a posteriori, lorsqu'on reconstruit une approche scientifique, on lui donne la cohérence et la logique d'une démarche qui aurait été suivie à partir d'une question en allant par étapes jusqu'à une conclusion. Je pense qu'il y a un côté, comme dans l'art, comme dans d'autres démarches de créativité humaine, il y a quelque chose qui est de l'ordre à la fois, je dirais, de la réflexion, du fait de creuser, de creuser des idées, et puis du hasard, et puis de l'affectivité.
La curiosité, l'intuition.
Oui, et bien un mélange, encore une fois, ce que j'évoquais plus tôt, entre ce qui est d'ordre de la raison et ce qui est de l'ordre de l'émotion. Je pense que les émotions sont un moteur considérable de notre façon d'approcher et d'explorer le monde, que ça soit encore une fois dans les domaines artistiques, dans les domaines scientifiques ou dans d'autres domaines encore, et qu'on a souvent tendance, quand il s'agit d'œuvres d'ordre rationnel à essayer d'effacer ce qui est de l'ordre de la subjectivité, de l'émotion, et en particulier en science, pour des raisons de reproductibilité, hein, parce que quelque chose n'est vrai ou n'est solide dans le domaine de science, pas parce que c'est beau, pas parce que c'est bouleversant, mais parce que ça peut être reproduit par n'importe qui, n'importe où. Et donc ça a une valeur universelle. On a tendance à faire le récit des chemins qui ont été suivis de manière très objective, en faisant comme si au fond la réalité se dévoilait et qu'il n'y avait pas de vie intérieure, de subjectivité, d'un peu de folie, de hasard dans ce qui après allait être reconstruit sous forme de quelque chose qui est solide et rationnel. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Ce qui me touchait quand j'ai commencé à rentrer dans ce domaine de recherche, c'est parce qu'il s'agissait de vie et de mort. Ce qu'on sait aujourd'hui, si je dois le résumer de manière extrêmement simple, ce dont il s'agissait, quand je parle de phénomènes de suicide cellulaire ou de mort cellulaire programmée ou d'apoptose, c'est que, si je le dis de manière très simple, c'est que toutes les cellules qui nous composent et qui composent les organismes vivants fabriquent, à partir de leurs gènes, donc à partir de nos gènes en ce qui concerne nos cellules, des molécules qu'on peut appeler des exécuteurs qui leur permettent à tout moment de déclencher leur autodestruction. Et qu'elles fabriquent aussi, ou qu'elles sont capables de fabriquer à partir de nos gènes, des molécules qui freinent et bloquent l'effet de ces exécuteurs et qu'on peut appeler des protecteurs. Et que lorsque vous mettez une cellule toute seule dans un milieu où il y a de la nourriture, la seule chose qu'elle sait faire, c'est déclencher son autodestruction. Et pour pouvoir activer ces protecteurs et réprimer son autodestruction, il faut qu'à intervalles réguliers, en général c'est tous les 24 heures ou tous les 48 heures, elle reçoive de certaines autres cellules des molécules qui lui permettent d'activer ses protecteurs et de réprimer ses exécuteurs. Et donc d'une certaine façon, chaque cellule vit en sursis, et aucune cellule ne peut vivre seule.
Et donc il y a un système de communication et d'entraide entre les cellules, on peut dire ça ?
Entraide, c'est anthropomorphique. Mm-hmm. Ce qu'on peut dire, c'est que le devenir d'une cellule dépend des interactions qu'elle est capable, par hasard, à un moment donné, à un endroit donné, d'entretenir avec la collectivité qui l'entoure. Et donc il y a quelque chose d'assez contre-intuitif, d'assez bouleversant. C'est que, au fond, d'une certaine façon, vivre pour ces cellules et pour le monde des cellules, mais c'est le monde qui compose l'ensemble de l'univers vivant, vivre pour une cellule, ça n'est pas quelque chose qui va de soi, c'est avoir été capable, pendant le temps où elle continue à vivre, de réprimer son autodestruction. Et donc ça donne une idée de la vie, qui est non pas la vie comme un événement positif, évident, mais comme la négation d'une négation, la répression d'une autodestruction. Et puis l'autre phénomène, l'autre implication, il y en a beaucoup d'autres, mais une implication importante, c'est quand vous demandez qu'est-ce qui dans une cellule lui est nécessaire et suffisant pour être vivante et pour continuer à vivre, vous pouvez pas répondre. Parce que dans la réponse, il y a la présence des autres cellules. Et donc ça veut dire que d'une certaine façon, dans ce qui permet à une cellule de survivre en réprimant son autodestruction jour après jour, eh bien, il y a la collectivité qui l'entoure. Et donc, c'est une vision un peu collective de la vie. Et je trouvais que c'était profondément émouvant. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de chercheurs dans le monde qui travaillaient dans ce domaine. C'était un domaine qui était considéré comme touchant le développement de l'embryon. Et donc, lorsqu'on se réunissait, on avait l'impression qu'on était en train de toucher quelque chose d'extrêmement important. Et ce qui me frappait, ce qui frappait un certain nombre d'entre nous, c'était les résonances, en dehors de la biologie, en dehors de la vie et de la mort des cellules, les résonances avec nos représentations sur la vie et la mort, nos représentations culturelles, les grands mythes, les philosophies, les récits religieux et spirituels. Et en quoi est-ce que ça entrait en résonance avec nos idées habituelles sur la vie, sur la mort et sur les relations entre la vie et la mort. Et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé, et en particulier dès le début, j'avais trouvé des résonances avec des mythes de la mythologie grecque, le voyage d'Ulysse près des sirènes, l'expédition d'Orphée avec Jason et les Argonautes à la recherche de la toison d'or. Et donc je commençais mes présentations scientifiques dans les congrès scientifiques en présentant la photo d'un vase grec qui figurait Ulysse et les sirènes, une mosaïque qui figurait Orphée à bord du bateau des Argonautes en train de jouer de la lyre pendant que les sirènes étaient là. Et donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à penser que l'idée qui paraissait totalement contre-intuitive, que la mort puisse résulter d'autre chose que de la famine, du vieillissement, de la destruction, mais de dérèglement entre les de communication entre les cellules, le fait que ça a été pensé dans un tout autre contexte, dans des mythes à propos du chant des sirènes, et le fait que les marins qui entendaient les sirènes chanter se tuaient en se jetant à l'eau, mais qu'il suffisait de boucher les oreilles, ou de s'attacher au mât, ou de jouer de la lyre, pour que ces communications n'aient pas cet effet. Je trouvais que c'était quelque chose de tout à fait important, et je trouvais presque, j'avais ce sentiment que c'était dommage qu'en dehors de ce petit cercle de chercheurs dans le monde, au fond, personne n'était au courant de ce que je considérais comme non seulement fascinant d'un point de vue scientifique, mais merveilleux. Et donc, ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à écrire très tôt La sculpture du vivant, que j'ai écrit et réécrit pendant 10 ans. Et quand je revois, et c'est Fabienne qui la première fois m'y a fait revenir, quand je revois les premières pages que j'avais écrites au début, quand je commençais à plonger dans ces recherches, c'était comme un poème épique. C'est-à-dire que je racontais quelque chose qui n'était pas un récit scientifique, mais qui était une espèce d'épopée. Et puis, au fur et à mesure de la réécriture, c'est devenu scientifique, et où, au fond, les résonances avec ce qui était anthropologique, philosophique, mythologique, se tissaient, mais de manière beaucoup plus fine. Mais je crois que ces premières pages reflétaient ce qui m'avait saisi, c'est-à-dire cette impression d'une recherche scientifique qui, en dehors de son côté passionnant dans ce qu'elle explorait, tentait d'élucider au cœur du fonctionnement du vivant, nous parlait de nous.
Donc, ouvrait une autre voie, finalement.
Voilà, et était en résonance, je dirais, avec toutes les autres dimensions qui me paraissaient importantes, l'art, la réflexion, la philosophie, et je trouvais au fond une complémentarité, quelque chose qui était ouvert. Et puis il y avait une autre question qui m'a beaucoup occupé et qui est une idée que Fabienne avait eue au moment où on a commencé à discuter dans ces jours de fièvre dont je vous parlais tout au début de l'année 90, et qui était, la question était, depuis quand est-ce que ça existait? Si on peut comprendre en quoi la disparition prématurée de cellules au cours de la construction d'un embryon, voire ensuite ce qui a été découvert au cours de la vie adulte, même de la vie adulte normale et physiologique, de la santé, la disparition d'une partie des cellules est bénéfique, a des effets positifs sur le reste de la collectivité qui survit, quand est-ce que c'était apparu au cours de l'évolution du vivant? Et l'idée à l'époque, c'était que c'était apparu au moment où les premiers corps des animaux et des plantes étaient apparus. Et où à ce moment, cette idée de sacrifice, d'altruisme, des termes très anthropomorphiques, faisait sens. Et c'est une idée qu'on retrouve souvent, qu'au cours de l'évolution du vivant, les solutions aux questions, aux problèmes, sont apparues au moment où les problèmes surgissaient. Quand on regarde l'évolution des vivants, voilà, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les ailes sont apparues longtemps avant d'être utilisées pour voler. Et donc, il y avait quelque chose d'anthropomorphique et de finaliste dans cette vision d'un phénomène extrêmement contre-intuitif qui serait apparu au moment où il se serait révélé utile et adaptatif. Et donc l'idée que Fabienne avait évoquée dès le début, c'est que au fond, ça devait être présent dans les organismes unicellulaires, ça devait être présent dans les levures, ça devait être présent dans les bactéries. Le monde multicellulaire, c'est un monde qui a à peu près 1 milliard d'années. Le monde vivant a 3,5 milliards ou 4 milliards d'années. Et donc c'est étrange d'imaginer que ces phénomènes d'autodestruction, cette capacité de s'autodétruire, serait là depuis 1 milliard d'années, et qu'au début elle était absente, qu'au début il y aurait une espèce de promesse d'éternelle jeunesse et d'immortalité dans chaque cellule vivante. Et ça me donnait l'impression d'être un reflet, ça n'avait rien d'une évidence scientifique, personne n'avait regardé si concrètement c'était le cas, ça me donnait l'impression de quelque chose qui renvoyait à des mythes. L'âge d'or originel, au début était l'immortalité, la promesse d'éternelle jeunesse, et puis un jour, et suivant les mythes, c'est différent. Là, c'est l'arbre du fruit de la connaissance. Eh bien, la mortalité est arrivée comme la mortalité obligatoire, comme un prix à payer pour la complexité. Et donc, J'ai commencé avec les chercheurs de mon laboratoire à explorer. On a fait partie au milieu des années 90, des trois laboratoires qui ont montré que les organismes unicellulaires avaient aussi cette capacité de s'autodétruire et leur survie aussi dépendait, sous des formes un peu différentes, de leur capacité d'interagir avec leur environnement et les autres cellules qui composaient les colonies. Et qu'au fond, une colonie d'organismes unicellulaires, c'est pas tellement différent d'un corps, sauf que les cellules ne sont pas condamnées à vivre ensemble et qu'elles ont des modalités d'interaction qui sont plus souples, plus ouvertes. Et donc, au milieu des années 90, j'ai proposé une autre idée théorique, une autre hypothèse, et qui est que, au fond, cette capacité de s'autodétruire serait aussi ancienne que l'origine du vivant, et qu'elle serait une espèce de conséquence inéluctable de la capacité d'auto-organisation, et que vivre, c'était utiliser en permanence des outils qui risquaient de l'intérieur de détruire si jamais ils fonctionnaient d'une certaine manière ou qui dérapaient. Et donc l'idée que j'ai proposée à l'époque, c'était que on avait divisé les gènes entre ceux qui permettaient de fabriquer des outils exécuteurs qui entraînaient l'autodestruction et puis les autres. Et donc c'était assez étrange, comme si au fond, à un moment était apparu des gènes dont la seule manière que les cellules avaient de les utiliser, c'était de fabriquer des exécuteurs qui entraînaient le suicide. Et donc ce que j'ai proposé, c'est qu'il n'y avait pas de protéines ou de gènes dont le seul effet serait d'entraîner l'autodestruction. Il y avait des gènes qui permettaient à une cellule de se construire et qui avaient comme autre effet possible d'être de bons exécuteurs potentiels, et ils avaient petit à petit été sélectionnés en tant qu'exécuteurs. Mais si on cherchait bien, on devrait trouver que dans les exécuteurs d'aujourd'hui, dans les cellules d'aujourd'hui, eh bien, il devait y avoir d'autres effets que simplement de déclencher le suicide. Donc c'était cette idée que, au fond, chaque exécuteur était un peu comme Janus, le dieu romain des portes, qu'il avait deux visages, et qu'il était d'un côté un outil de vie, et puis dans certaines circonstances qui avaient conduit à la propagation de ces cellules ou de ces corps, eh bien, il fonctionnait très bien comme exécuteur tout en étant contrôlé. Et donc ce qui s'est passé depuis, c'est que ça semble être le cas. C'est-à-dire que les outils dont on pensait qu'ils étaient de purs exécuteurs se sont révélés avoir d'autres effets possibles. Et donc ces réflexions, ça m'a fait redécouvrir Darwin, ça m'a fait plonger dans l'évolution, parce que la question de comment cette capacité d'autodestruction a-t-elle pu un jour apparaître et se propager, c'était une façon de poser la question de l'évolution. Et donc ça m'a amené au milieu des années 90 à me plonger profondément, ce que j'avais fait de manière assez superficielle, dans la question de l'évolution du vivant, de l'œuvre de Darwin, et puis de ce que la réflexion et la pensée sur l'évolution du vivant étaient devenues depuis.
Donc autant d'événements survenus dans votre vie, Jean-Claude Amezen, et qui vous ont questionné en tant que chercheur aussi, ce monde de la recherche plus que jamais lié pour vous aussi au rapport de la personne, des droits et puis de l'éthique. Ce sera le prochain volet de notre entretien. Jean-Claude Amezen, à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Aurélie Luneau avec Jean-Claude Amezen. À voix nue, réalisation Christine Robert, prise de son Yves Lehors, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.